Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures ?
Jeudi 28 avril 2016, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Il y a 30 ans, il y a eu l'accident nucléaire de Tchernobyl et à cette occasion, depuis la semaine dernière, France Culture vous propose une série de programmes avec des spécialistes. Donc il y a eu la parole d'experts, les témoignages, les archives, la réflexion sur la notion de catastrophe la semaine dernière. Nous, depuis lundi, on parle de Tchernobyl aujourd'hui et du regard des artistes, avec le photographe Alain-Gilles Bastide qui s'est rendu sur place 20 ans après la catastrophe. On essaye d'imaginer à quoi ressemble Tchernobyl aujourd'hui, comment vivent les gens qui étaient sur place pendant la catastrophe ou qui y vivent aujourd'hui pour travailler autour du sarcophage de la centrale nucléaire. Dans un instant, le quatrième épisode de notre série Paysages de Tchernobyl 30 ans après. Et en deuxième partie, une exposition de photos. Cornelia Bachlein sera là. Elle est la commissaire de l'exposition Laure Kruger. Ça se passe en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme et ce jusqu'au 17 juillet.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала.
Paysages de Tchernobyl, 30 ans après, avec Alain-Gilles Bastide.
Что ты там робила, что ты там робила?
Quatrième épisode, comment parler d'une mémoire confisquée, comment immortaliser le danger invisible tel que on le vit encore quotidiennement 30 ans après la catastrophe nucléaire à Tchernobyl et aux alentours de Tchernobyl. Alors, hier, vous nous disiez que vous êtes allé à Kiev pour retrouver les veuves des deux premiers pompiers morts après s'être rendus le soir de la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire aux premières heures d'un mardi 26 avril 1986. Que vous ont raconté ces témoins de la catastrophe ?
Ces témoins m'ont raconté, des choses que quelque part je connaissais déjà par le livre absolument à lire, qui est une pierre de base de sur le sujet de la supplication, chronique après l'apocalypse de Sveltan Aleksevitch, et le livre et les films de Vladimir Tcherkov. Le livre Le Crime de Tchernobyl, qui est édité aux éditions Actes Sud, qui est un gros pavé, mais qui se lit très très bien, et qui couvre vraiment tous les aspects du problème. Ce sont les deux pièces principales, il y a peut-être des témoignages. Alors, ce sont des témoignages, qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté surtout, plus que le moment même, ou même les deux veuves des deux premiers pompiers, anecdotiquement, bon ben voilà, c'est un feu qui se passe et tout. C'est surtout l'après, si vous voulez. C'est l'après quand elles ont été les premières à réaliser que leur époux, leur mari, était un déchet atomique, quoi, carbonisé déjà, comme voilà, devenu un peu comme du charbon, brûlé de l'intérieur et boursouflé, avec juste les yeux qui étaient les mêmes yeux qu'on est habitué à voir, des yeux dans un corps transformé, brûlé de l'intérieur, devenu boursouflé, un peu comme allant vers le charbon. Et elles ont perçu la conscience, c'est-à-dire que tout ça c'était absolument assez, c'est l'horreur, mais l'esprit de ces gens-là était de ce qu'elles racontent complètement indemne quelque part, quoi. Ils ont vécu toute cette ils sont partis dans un hôpital spécialisé à Moscou, etc. Elle pouvait pas les accompagner. Il a fallu qu'elle parte après, essayer de les rejoindre. Une des deux était enceinte. Il y a eu des scènes complètement. Tcherkov en parle très bien. Des scènes d'évacuation des enfants à Minsk ou à Kiev. Ça n'a pas été encore mis en film, quoi. J'espère que ce sera un jour. Il faut imaginer des bus entiers arrivant à des gares, des enfants chargés dans les trains, partant loin, le plus loin possible. Moi, j'ai pas vu ça, si vous voulez. Mais elles ont fait référence. Elles n'arrêtaient pas de faire référence à cette débâcle, à cette fuite, à cette tout d'un coup, tous les repères, toutes les choses de la vie normale, quoi, foutent le camp.
On obligeait les gens de prendre les cars et de partir tout de suite. On ne pouvait emporter avec soi que les objets en or, de l'argent, enfin des bijoux et des papiers personnels. Et souvent, les gens ont travaillé toute la nuit dans leur potager avant l'évacuation parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'ils n'allaient plus jamais revenir sur cette terre. Et ils ne comprenaient pas que c'était fini parce que le ciel était bleu, c'était le printemps, tout était en fleurs. Ça ne cadrait absolument pas avec l'image de la catastrophe ou d'une guerre. Il n'y avait pas de bombardement, pas de tir, enfin, tout était calme et beau. Проверяли молоко хороше, корова хороша ходить у такій траві, оце дойдуть, до неї садим, сієм. От і, ну таке, короче, горе.
L'herbe est propre? Je ne sais pas.
Les femmes qui, juste avant leur départ, trayaient pour la dernière fois leur vache, ils avaient des seaux remplis de
Galia Ackermann.
Lait. Et elles restaient complètement interdites quand les militaires leur disaient qu'il fallait jeter ce lait par terre parce qu'il était inutilisable. C'était quelque chose de complètement inconcevable. Et bien sûr, il y avait beaucoup de gens, et justement des gens simples, qui devenaient philosophes parce que c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils comprennent.
Moi, à Kiev, par exemple, dans les grands immeubles qu'ils ont construits pour recevoir les gens des zones évacuées, au départ, ces immeubles étaient des immeubles donc sains entre guillemets, c'est-à-dire bon, pas contaminés, pas radioactifs. Et les gens qui sont arrivés là contaminés ont contaminé les immeubles, c'est-à-dire que c'est des immeubles dans un quartier où votre compteur réagit. Vous voyez, quand vous le mettez sur l'appartement, je me souviens de ces dames-là, était mon compteur bougeait. Mon compteur a lancé bien sûr, on peut, vivable, mais bougeait. Alors qu'à côté, ils bougeaient pas. Donc ces gens-là sont arrivés. Il y a un film, Le Sacrifice de Tcherkov, qu'il faut absolument voir, qui est sur les liquidateurs, qui illustre bien les questions que vous me posez. Ces gens qui sont partis tout d'un coup de la campagne dans la ville. Et dans la ville, c'est pas les mêmes références, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes références. Et surtout avec, on leur avait enlevé tout ce qu'ils avaient fabriqué, tout ce qu'ils avaient fait être ce qu'ils étaient. Donc, ce qu'elle racontait, c'est cette absence-là, soudaine, cette confiscation, justement.
Et vous êtes allé toujours à la recherche de traces de l'accident, de traces aussi du drame et des conséquences de ce qui s'est passé ce 26 avril 1986 à Tchernobyl, dans la centrale nucléaire. Vous êtes allé dans un hôpital psychiatrique pour enfants.
Non, je suis pas allé dans l'hôpital. Dans mon livre, il y a deux photos,
ouais,
de l'hôpital Novinki. Mm-hmm. Une est de Magdalena Caris et l'autre est de Paul Fusco. Mm-hmm. Ce sont les deux seuls photographes que je connais, en tout cas ma connaissance, qui sont allés là et sur fin qui en ont ramené un travail, un livre qui a été édité à très peu d'exemplaires
et là on voit effectivement des photos qui font peur. C'est, ouais, c'est les fameuses photos que vous n'avez pas pu prendre vous-même, Alain Gilles Pastite, parce que il n'y avait plus de traces. Mais là, c'est ces bébés monstrueux, mal formés, nés de après la catastrophe nucléaire existent.
Oui, ils existent. Je les connaissais, moi, au travers des photos de Paul Fusco et de Magdalena Caris. Je pouvais y aller. J'avais des autorisations pour y aller. Et je n'y suis pas allé. J'ai pas voulu y aller. J'ai pas voulu y aller parce que je me suis dit que mon esprit le supporterait pas, quoi. Je veux dire, je pouvais pas. Moi, quand j'ai vu la première exposition de Fusco, c'était à Caen dans un symposium sur Tchernobyl. Enfin, et, voilà, sur Tchernobyl. Et je suis rentré dans l'exposition et je suis sorti tout de suite. J'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'ai pleuré carrément. J'avais le pleur qui me. Je pouvais pas me bouffer de pleurs. Comme une peur, je sais pas, une.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez vu?
Ben, les photos de Fusco, de ses enfants mal formés, de ses regards, dans ses corps souffrant de pathologies absolument inimaginables. L'enfant dans le monstre, si vous voulez, je sais pas, prisonnier du monstre.
Extrait d'une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl, du 10 décembre 2000, par René Farabet.
Мы вместе с Легасом поднялись на вертолете над реактором, и, пожалуй, это вот первое было, так сказать, ощущение такое. Вот если говорят верующие люди, что есть ад, то я думаю, что я в этом аду был.
Le héros scientifique, c'est le professeur Nesterenko, scientifique de haut niveau, directeur à l'époque de l'URSS, de l'Institut atomique biélorusse. Cet homme, dans les premières heures, a survolé la centrale en feu, en hélicoptère, avec un autre scientifique, son collègue et ami, qui s'appelait Legasov, qui par la suite s'est suicidé, car les informations qu'il donnait ont été censurées en Occident et ensuite en URSS, pour essayer de voir et de comprendre de quelle façon on pouvait essayer de l'éteindre. Il a pris sa belle dose de radioactivité lui-même, il a son système digestif abîmé.
Vladimir Tcherkov.
Survécu par chance. Et quand il a vu les centaines d'enfants qu'on commençait à emmener sous Minsk, et il a commencé à les mesurer, ça a été la révolution interne, éthique de cet homme qui a compris qu'il ne s'occuperait plus jamais de l'atome parce que, à son avis, cette science et cette technologie, l'humanité n'est pas moralement et politiquement mûre pour pouvoir jouer avec un instrument de ce genre. Et il a orienté tout son engagement, disons, pour essayer d'aider ces populations. Il a immédiatement, dès les premières heures, il a alerté les pouvoirs publics qui tendaient à dire « mais non, c'est un incendie, c'est pas grave ». Enfin, pendant 4 ans, l'Union soviétique a étendu un silence complet sur la réalité. On a chassé de son poste de directeur. Il a constitué son institut indépendant pour mesurer les territoires et les personnes. Les Irlandais l'ont doté de 6 ambulances avec des fauteuils de mesure. C'est un système électronique très sophistiqué sur la base d'un cristal au fond d'un fauteuil, sur le siège d'un fauteuil, où on met un enfant, par exemple, pendant 3 minutes, et on voit combien de becquerel il a dans le corps, et de quelle origine, si c'est du césium ou autre. Et le becquerel, c'est une désintégration atomique par seconde.
La première mission de l'armée, quand elle est arrivée sur le terrain, c'est-à-dire quelques jours après, la première mission, ça a été de confisquer toutes les images qui avaient pu être faites de l'accident, des évacuations, etc. C'est pour ça qu'il n'existe aucune image. C'est ce que j'ai dit à mon livre, il n'existe pas d'image du passé, Tchernobyl. Donc, il en existe peut-être du futur. C'est ce que ça a été mon pari, si vous voulez. Et la mission était, on confisque quand même. Donc, on va prendre toutes les photos, tous les films, voilà, pour commencer.
Merci beaucoup, Alain-Gilles Bastide. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série, des choses vues, vécues, entendues, ressenties à Tchernobyl, paysage de Tchernobyl, 30 ans après l'accident. À demain.
À demain.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Там робила, что ты там робила?
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité ce matin est Cornelia Beslein. Bonjour.
Bonjour.
Golden Tag, c'est comme ça
qu'on dit. Golden Tag, oui, c'est ça.
Vous êtes commissaire d'expo de Laure Kruger, une photographe en exil de 1934 à 1944, qui a lieu en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et ce jusqu'au 17 juillet. Laure Kruger est connue comme traductrice en Allemagne, puisqu'elle a traduit des grands classiques anglo-saxons, Mark Twain, Stevenson, entre autres, mais elle avait une autre vie. Cette autre vie, c'est celle d'une artiste photographe. Et vous, ainsi qu'une amie à vous, vous avez découvert ces photos qui n'ont jamais été exposées auparavant.
Oui, c'est juste. C'était mon amie Iria Kretke, qui est philologue. Et elle faisait un reportage sur des anciens combattants d'Espagne. Et Laure Kruger, son mari, était ancien combattant d'Espagne. Et donc, elle avait des contacts avec Kurt Julius Goldstein, qui était la personne en question pour l'interview de Iria Kretke. Et donc, elle a pris rendez-vous avec Laure Kruger dans un café à Prenzlauer Berg. C'est le quartier dans lequel on habite toutes les deux à Berlin. Et dans ce café associatif, tous les années, il y a les anciens combattants d'Espagne qui se rencontrent et leur famille. Et donc, ils se donnent rendez-vous là-bas. Et Iria Kretke donc rencontre Laure Kruger dans ce café. Et Laure Kruger est d'accord pour donner une interview sur Kurt Julius Goldstein. Et donc, elle se donne rendez-vous à la Karl-Marx-Allee. C'est là où elle habite, Laure Kruger, à Berlin.
Et donc, en 2008, vous découvrez toute cette partie de la vie de Laure Kruger qu'on ne connaissait pas, celle d'une photographe. Et à partir de cette rencontre, de ces photos qu'elle va vous donner, vous allez la faire connaître au moins cette photographe. Et c'est incroyable, parce que quand on voit l'exposition, quand on voit la photo, on se dit, mais comment Laure Kroger elle-même n'avait pas décidé, à la libération par exemple, à la fin de la guerre par exemple, de montrer ces photos. Alors pour résumer un peu le parcours de cette photographe, de cette artiste, parce qu'on peut le dire, aujourd'hui elle quitte l'Allemagne très tôt, c'est-à-dire dès l'arrivée des nazis, ses parents vont lui demander de quitter l'Allemagne, où elle va s'installer d'abord en Espagne. Elle va faire entre 1934 et 1944 les grande capitale, c'est-à-dire ensuite, après l'Espagne, Paris. Paris, où elle va prendre des cours de photo, Londres et New York. Et dans ces villes, elle va faire aussi bien des portraits, des natures mortes, que du reportage photo.
Oui, tout à fait. Mais c'est déjà en 1933 qu'elle quitte l'Allemagne, ouais. Pour partir à Londres. Et donc, elle commençait déjà à ce moment-là la photographie. Elle avait transformé la cuisine de la famille dans laquelle elle travaillait en chambre noire pour développer ses photos.
Mmh. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un style typiquement Laure Kroger ? Parce qu'on peut... idéologiquement la situer plutôt à gauche, même marxiste, parce que par exemple les photos de Paris, de la misère de Paris, on voit qu'elle a une empathie pour le peuple parisien. Aux États-Unis, elle va prendre des portraits de noirs. Est-ce que c'est toute son œuvre qui va tourner autour d'un engagement politique?
Oui, Laure Kroger était une personne très intéressée par la politique et elle, on peut retrouver ça dans ses photographies. Et elle disait aussi que elle, ce qu'elle voulait, c'était de photographier la vraie vie. Mmh. Donc, ce qui l'intéressait, c'était les personnes.
Enfin, la vraie vie, et surtout la vraie vie qui n'était pas prise en photo. Par exemple, quand elle décide de faire un reportage sur les gitans des Sainte-Marie de la Mer, ça n'avait pas été fait auparavant. Ça devient du coup, aujourd'hui, ces photos exposées au musée d'art et d'histoire du judaïsme, ça devient du coup des documents très très précieux.
Oui, et ce qui est très intéressant dans ces photos, c'est la place qu'elle prend. On a l'impression, elle est en plein dedans avec les gens. Elle vit ce que les gens vivent. Elle participe vraiment à l'événement là-bas. Elle rentre dans l'eau avec tous les gens, avec la statue, les chevaux, et on voit bien la position qu'elle prend.
Voilà, et puis bien sûr, elle va militer contre Franco, elle va tout ça, elle va le prendre en photo, c'est-à-dire comme elle voulait être vraiment témoin de son époque, tout en étant militante, parce qu'il y a un point de vue, c'est la première fois d'ailleurs qu'on peut dire d'une manière aussi claire, cette photographe a un point de vue.
Oui. Tout à fait. Il y a des photos qui sont vraiment très impressionnantes pour cette époque. Par exemple, justement dans ce reportage sur les gitans, elle prend en photo un enfant handicapé, ce qui n'a pas été vu à cette époque. Dans la photographie.
Comment elle va s'initier à cet art ? Est-ce qu'elle va prendre des cours, Laure Kroger ?
Alors, elle a pris d'abord les cours à Londres, dans le County Council. Elle a pris des cours de soir. Après, elle a continué sa formation à Barcelone, chez M. Tserkovits, qui, lui, éditait des cartes postales et qui avait un atelier de photographe. Et après, elle a commencé chez Florence Henry. Elle était une de ses élèves.
Alors, justement, Cornelia Beslein, pourquoi Laure Kroger n'a jamais voulu exposer ses photos? Pourquoi elle n'a pas épousé cette carrière d'artiste photographe, préférant se cacher derrière quelques grands noms de la littérature anglo-saxon et gagner sa vie en tant que traductrice en Allemagne?
Elle avait déjà perdu beaucoup de ses photos quand elle passer la frontière, notamment quand elle passait de Paris sur l'île de Majorque. Sur le retour, souvent, les photos ont été confisquées. Et on imagine aussi, sur tout ce qu'elle a vécu, tout le parcours, beaucoup de photos n'ont pas pu être transportées et sauvées. Et donc, elle avait peur de perdre ses photos. Mmh. Et de les montrer ailleurs et de les montrer dans une exposition, c'est un danger. Et elle avait peur de...
Comme si c'était son jardin secret ?
Oui, oui.
Alors, comment vous allez la rencontrer à Berlin en 2008, vous allez la convaincre de montrer ses photos et de les exposer ?
Elle était en train d'écrire sa biographie à ce moment-là. Et l'idée de montrer les photos et de témoigner et de lire des extraits de sa biographie, cette idée lui plaisait beaucoup parce qu'elle avait envie de parler de cette époque. C'était toujours un grand sujet pour elle. Elle a témoigné dans les écoles, elle a toujours participé à des événements antifascistes. Et ça, c'était vraiment une affaire de cœur pour elle.
Et elle en parle très bien, puisqu'elle dit « L'art, dans ses mémoires, hein, l'art se situe à la croisée de la raison et du sentiment. Je m'efforçais de saisir les deux, de réunir imagination et logique, qui sont difficiles à maîtriser, à transposer la couleur et la forme en ombre et en lumière, à capter sur la pellicule l'image que j'entrevoyais. » C'est une exposition incroyable, Laure Kruger, et vous pouvez la voir jusqu'au 17 juillet au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Cornelia Bestline, merci d'être venue nous en parler, mais c'est pas la fin, on passe au questionnaire d'un autre jour. Et c'est bien sûr autour des photos de Laure Kruger.
Alors, le plus beau portrait de Laure Kruger, pour moi, ce n'est pas ce qu'on voit souvent, le portrait de Florence Henry qui est sur la couverture. Moi, ce qui m'avait touchée, c'était son
la couverture du catalogue, bien sûr. Ouais.
Oui, son autoportrait quand elle était encore toute jeune. On ne sait pas exactement la date à laquelle cette photo a été prise. Mais on pense que c'est en 1933, autour de 33, et où elle fait un autoportrait dans un miroir. Et cette photo me touche beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette exposition Cornelia Bestline. C'est à vous de faire le générique de fin de l'émission.
Merci à vous. Alors, c'était un autre jour est possible. Das war ein anderer Tag ist möglich. Une émission de Tefi Kakem préparée avec Anaïs Isabert, Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Dutter, avec aujourd'hui à la technique Jaris Joudan. Un autre jour est possible et à retrouver sur franceculture.fr avec podcast et écoute en ligne.
Merci beaucoup. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série consacrée à Tchernobyl. Bonne matinée, au revoir.